La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. On a beaucoup analysé l'œuvre d'Alfred Hitchcock en termes psychanalytiques et il est vrai que ses premières années peuvent donner du grain à moudre à ce type d'interprétation. Né en 1899, il a grandi dans l'atmosphère corsetée créée par sa mère autour de lui. Il a souffert des rigueurs de l'éducation religieuse de son collège de jésuites où par ailleurs son physique et sa timidité faisaient de lui la risée de sa classe. Il est possible qu'il ait cherché à se réfugier de tout cela dans la fiction, comme nous en avons tenté l'hypothèse hier avec le critique François Rivière au cours de notre émission biographique. Et puis demain, nous parlerons d'Hitchcock avec un philosophe, l'universitaire belge Laurent Van End. Avant de terminer la semaine en évoquant la musique de ses films, mais également la présence de la peinture ou même des escaliers dans son œuvre, nous serons pour cela avec Lydie de Cobert. Et aujourd'hui ?
À propos, permettez-moi de m'excuser pour les ennuis que je vous cause. Votre plaisir est mon seul but.
Aujourd'hui, nous allons nous demander si le plaisir du spectateur était réellement le seul but d'Hitchcock et surtout évoquer les grandes caractéristiques de son œuvre en compagnie de Thierry Jousse, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma entre 1989 et 1996, producteur également à France Musique de l'émission Ciné Tempo. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des œuvres.
I don't care about the subject matter.
Le sujet m'importe peu.
I don't care about the acting.
Le jeu m'importe peu.
But I care about the pieces of film.
C'était les morceaux de film.
And photography.
Et la photographie.
And everything that it contained from the technical aspect.
Et tout ce qui était contenu au point de vue technique.
Could make an audience scream.
Pouvait faire hurler une audience.
And in many ways,
et en beaucoup de manières,
I feel
je sens
my satisfaction
que ma satisfaction
our art
avec notre art
achieve something
a accompli quelque
of
chose
mass emotion.
D'une émotion de masse. En sens d'une émotion de masse.
And this, I think, well, we know it did achieve this.
Et nous savons que ça accomplit cela.
Bonjour Thierry Jousse.
Bonjour.
Finalement, ce qui fait plaisir à Hitchcock, c'est sûrement de faire plaisir au spectateur, mais c'est aussi de le faire hurler. On a l'impression que c'est ça le plus jouissif quand même.
Le plaisir et la souffrance sont indissociables chez Hitchcock. Non, je pense qu'il exprime aussi ce qui a été dit à plusieurs reprises, parce que lui-même a dit, c'est qu'il considère le spectateur comme un partenaire essentiel du jeu qu'il met en place. On pourrait même dire que le spectateur est plus qu'un partenaire, il est quasiment un personnage du film. En tout cas, sa perception du film est essentielle à l'achèvement du film, on pourrait dire.
Vous dites dire que le spectateur est actif en regardant un film d'Hitchcock davantage que bien d'autres films.
Alors paradoxalement, il est à la fois manipulé complètement, parce que Hitchcock était quand même un des rois de la manipulation, et en même temps, il lui donne en effet la possibilité d'interpréter, de se projeter, de faire marcher son inconscient, si tant est qu'on puisse faire marcher son inconscient, à travers les énigmes, les formes, les situations qu'il lui propose. Donc oui, c'est un jeu à plusieurs entrées, on va dire.
Vous avez un exemple d'un film où ce serait particulièrement le cas ?
Oh, peut-être le film qui va le plus loin dans cette dimension-là, ou en tout cas, et d'ailleurs c'est un des grands succès publics de Hitchcock, c'est L'amour aux trousses peut-être, parce que là on est face à un très grand jeu dont le réalisme est assez peu, enfin la question centrale on va dire. Donc il y a quelque chose d'extrêmement ludique dans ce film, auquel d'ailleurs le personnage de Cary Grant d'une certaine manière est dans la situation du spectateur, c'est-à-dire qu'il ne comprend rien à ce qui lui arrive pendant une grande partie, enfin disons les deux tiers du film. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est entre parenthèses que Cary Grant, pendant le tournage du film, disait à Hitchcock à un moment, puisqu'il, je crois qu'il tournait à peu près chronologiquement, il disait, mais je comprends rien à ce qui, le film n'a pas l'air bon parce que je ne sais pas de quoi il ça parle. Et Hitchcock, en fait, était très content puisqu'il était dans la situation même du personnage. Donc, le spectateur est dans cette situation-là. Et en même temps, il a de plus en plus d'éléments pour pouvoir interpréter. Enfin, ce qui est intéressant avec Hitchcock, c'est que ça se joue toujours à plusieurs niveaux. Il me semble, c'est-à-dire qu'il y a le niveau ludique, le niveau voilà dont Hitchcock parle assez volontiers, c'est-à-dire ce que j'appelais la manipulation spectateur, la manière dont le spectateur. Mais très vite, on peut aussi passer à une autre dimension qui est, je dirais, à la fois sensuelle, sensorielle et potentiellement psychique ou symbolique.
Alors on va essayer d'explorer avec vous ces différents niveaux. Hitchcock, c'est pour vous un cinéaste qui compte à la fois pour le critique de cinéma que vous êtes, aussi peut-être pour le cinéaste que vous êtes devenu, puisque vous avez réalisé un long métrage en 2005, Les Invisibles. D'un côté comme de l'autre, vous avez beaucoup regardé Hitchcock.
J'ai regardé Hitchcock comme tout le monde, parce que c'est un cinéaste célèbre aussi qu'il était. Enfin, moi, j'ai pas eu 15 ans il y a deux mois, donc je veux dire, j'appartiens à une génération où de toute façon, d'abord Hitchcock était encore vivant, donc j'ai pu voir en tout cas au moins un film en contemporainement à sa sortie, c'est-à-dire le dernier, Complot de famille. Donc c'était un cinéaste majeur qui était d'ailleurs à la fois déjà adoubé parce que les grandes manœuvres, on va dire, des cahiers du cinéma des années 50 avaient porté leurs fruits, c'est-à-dire qu'Hitchcock était considéré comme un artiste déjà, mais en même temps
en France, vous voulez dire, ou dans le monde?
En France en tout cas, dans le monde ça pourrait se discuter, mais en disant en Europe peut-être.
Donc les cahiers ont eu une importance très grande dans la manière dont on a regardé Hitchcock même après sa mort.
Oui, ça, je pense que c'était capital. Le premier livre sur Hitchcock, à ma connaissance, je crois que c'est le premier livre dans le monde, c'est celui de Romer et Chabrol, qui date de la deuxième moitié des années 50. Donc, à une époque où là, par contre, Hitchcock n'était pas du tout reconnu comme un artiste à part entière. Donc, c'est venu progressivement, mais il est évident que le travail critique qui a été accompli à cette période-là par Truffaut, par tous ces gens, a été absolument essentiel pour la reconnaissance et pour le dépassement de l'image qu'il avait encore, je disais, quand j'étais enfant ou jeune. C'est-à-dire quand même, il y avait l'idée que c'était sans doute un artiste, mais c'était quand même avant tout le maître du suspense, donc un cinéaste quand même extrêmement divertissant.
Par Serge Danet aussi, un nom qu'on pourrait citer également.
Oui, mais lui, il arrive forcément en tant que cinéphile, comme il s'est défini lui-même, après. Donc, oui, parce qu'après Hitchcock, forcément, de génération en génération, continue à nourrir le regard critique, et puis il continue aussi à nourrir l'imaginaire de cinéastes qui ont, d'une certaine façon, prolongé son œuvre. Enfin, je ne vais pas anticiper sur vos émissions de la semaine, mais bon, il y a quelques disciples, dont le plus connu est évidemment Brian De Palma. Bon, mais on peut dire que beaucoup de cinéastes de cette génération-là, on peut citer Polanski, je pense, par exemple, aussi. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont prolongé, d'une certaine façon, ou qui se sont nourris du geste ou de la geste hitchcockienne. Donc c'est un cinéaste qui a été extrêmement influent, mais d'une manière qui était finalement assez inattendue, c'est-à-dire assez formellement et en même temps assez profondément, presque existentiellement. Donc c'est quelque chose d'assez particulier, qui est peut-être unique, finalement, chez Hitchcock.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que on n'a peut-être pas besoin d'être vraiment cinéphile pour apprécier Hitchcock, et pourtant les cinéphiles apprécient aussi ce cinéaste.
Ah, ça, c'est la martingale du peut-être d'Hitchcock et peut-être d'une partie du cinéma classique américain, c'est d'avoir construit une œuvre qui était, d'avoir donné la possibilité à des œuvres comme celle-là d'exister, c'est-à-dire des œuvres qui avaient plusieurs niveaux de lecture. Après, quelle était la conscience exacte que Hitchcock avait de ça? On n'en sait rien. Je pense qu'Hitchcock, quand il parle dans les entretiens, ne serait-ce que avec Truffaut, bien sûr, dans le fameux long livre et long entretien passionnant
dont on diffuse des extraits régulièrement ici.
on sent qu'il défend, enfin lui il parle surtout du comment, c'est-à-dire de comment il a fait ses films, de qu'il a une espèce de gourmandise, le mot est toujours bien adapté pour Hitchcock, à décrire les procédures de telle ou telle scène célèbre. C'est vraiment quelque chose qui le passionne, et en même temps bien sûr il n'ignore pas que son cinéma, ou en tout cas certains de ses films, peuvent aller au-delà. Mais il n'en dit rien. Je pense qu'il préfère que ce soit Truffaut ou le spectateur qui vienne interpréter ses films. Lui, il reste comme celui qui propose, au fond.
Et cette popularité d'Hitchcock, Thierry Jousse, est-ce qu'elle ne tient pas aussi à sa personne, j'ai presque envie de dire à son physique? Il était connu lui-même en tant aussi que présentateur de Hitchcock Présente. Et puis c'est un personnage lui-même.
Il s'est mis en scène, semble-t-il, il a eu cette conscience-là assez tôt, je pense, probablement dès les années 30, et ça s'est évidemment accentué au fur et à mesure. Il y a ce fameux profil qui est dessiné, par exemple, qu'on peut retrouver ici et là. Il y a l'idée aussi qu'il apparaît toujours dans ses films, ça c'est arrivé là aussi, je crois, à partir des années 30.
Mais très tôt. Un sens de la publicité personnelle très grand.
Absolument. Et il avait d'ailleurs une formation, il avait fait des dessins pour la publicité dans ses premiers métiers. Donc, en effet, c'est pas quelque chose d'étranger. Ça fait probablement partie de sa technique de cinéaste, je dirais. C'est une façon d'élargir la question du rapport au spectateur, à mon avis. Et il a compris aussi que c'était une façon pour lui d'être plus la vedette que les acteurs, d'une certaine manière. Parce que c'est un paradoxe, il tourne quand même avec des grandes stars. Mais au fond, Hitchcock, je dis pas qu'il est plus connu que Cary Grant ou James Stewart, mais enfin, on dit pas un film de James Stewart ou un film de Cary Grant quand il s'agit d'un film d'Hitchcock, on dit un film d'Hitchcock.
À un moment, Hitchcock vous dit « Moi, ce que je veux, c'est faire des films sans trous ni taches ». Comment faut-il comprendre ça?
Oui, oh, c'est magnifique ça, j'aime beaucoup cette expression parce que ça va avec une autre expression aussi qu'il emploie tant en temps, il dit compléter la tapisserie, j'ai fait ça pour compléter la tapisserie. C'est l'idée que, parce que le film se déroule et qu'il ne doit pas y avoir de creux, il ne doit pas y avoir de moments plats, ça doit être passionnant, c'est l'idée que le film ressemble à un train. Ce train est composé de wagons et ces wagons doivent être accrochés le mieux possible et le train ne doit jamais s'arrêter. C'est une idée que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que un livre, on peut s'arrêter, revenir en arrière. La mort de Madame Bovary, qui s'empoisonne à l'arsenic, est très lente et très lente. Et je suppose qu'à ce moment-là, le lecteur fait un effort d'accélération parce que cette mort est trop lente pour nous à arriver au terme de cette histoire qui a quand même été magnifique et un des plus beaux romans du monde, mais je pense qu'on fait une accélération de lecture qui fait qu'on va plus vite. Mais au cinéma, il ne peut pas y avoir accélération puisque la pellicule défile à la même vitesse. Donc c'est au metteur en scène de prévoir les moments où il peut ralentir, les moments où il doit accélérer. C'est aussi pour ça que le cinéma est un art qui s'accorde mieux à la fulgurance les morts lentes marchent mal au cinéma, vous voyez. On aime mieux voir quelqu'un qui est en train de téléphoner paisiblement dans une cabine de téléphone et la cabine explose. On préfère voir ça que de le voir souffrir les affres d'un empoisonnement. Alors c'est ça que Hitchcock voulait dire, sans tache ni trou, c'est-à-dire sans tache d'ennui.
François Truffaut au micro de Laure Adler en 1984, Thierry Jousse. Hitchcock a trouvé un point de rencontre entre un cinéma à la fois très personnel et en même temps qui cherche à séduire. Il y a ces deux aspects-là qui en font justement un cinéma à la fois d'auteur et un cinéma commercial. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que c'est son sens particulier de ce médium qu'est le cinéma qui lui permet finalement de ne pas se renier et en même temps de tenir toujours en haleine le spectateur?
Il y a plusieurs aspects dans ce que vous dites. Il y a l'aspect enfin, cette phrase qui est très connue, qu'il a dite à quelques reprises, enfin, notamment avec Truffaut. Moi, je ne filme pas des tranches de vie, je filme des tranches de gâteau. Donc, il y avait quand
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que le documentaire ne l'intéresse pas. Ça, c'est ça que ça veut dire en réalité. Ça veut dire qu'il considère que le spectateur qui rentre dans une salle de cinéma pour voir un de ses films, il va se projeter dans une histoire qui n'est pas une histoire qui est censée lui arriver. Mais en même temps, il va lui donner l'illusion que cette histoire lui arrive ou qu'elle pourrait lui arriver. Et d'ailleurs, je dirais que ce qui fait le succès de Hitchcock, c'est évidemment bon sa maîtrise du suspense, dont on sait que c'est pas la même chose que la surprise, ce qu'il a dit à plusieurs reprises. C'est-à-dire la surprise, c'est quand vous avez un ce qu'on appelle un twist.
Il va nous l'expliquer tout à l'heure.
Voilà, bon, alors, un coup de théâtre final, alors que au fond le suspense naît de ce que le spectateur en sait autant que le parfois même plus que le personnage. Donc bon, donc ça c'est évidemment un aspect important, mais je dirais que l'autre point qui me paraît très important et qui a sans doute celui qui a fait que il a fasciné aussi les critiques de cinéma et pas mal de spectateurs, c'est que la matière des films d'Hitchcock au fond, ce sont des sentiments très, très élémentaires que sont la peur, principalement, je dirais, la peur, la culpabilité, ce type de sentiments, d'un côté, et de l'autre côté, son corollaire, la sexualité. Alors, la sexualité empêchée, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, la sexualité. Et que c'est quand même de cette matière-là que ces films sont faits, et ça n'est pas dit explicitement la plupart du temps. La peur, davantage, évidemment, puisque là, on est vraiment dans l'explicite. La sexualité, de manière implicite, pour Hitchcock, on était conscient, parce que ça apparaît de plus en plus clairement dans ses films, d'ailleurs, avec le temps, et peut-être c'est moins bien quand ça apparaît plus clairement, au fond. Mais je pense que voilà, il y a à la fois cet art du divertissement porté à son zénith, à son incandescence, d'une certaine façon. C'est peut-être le plus grand entertainer, comme on dit en anglais. Et en même temps, à travers ce divertissement, se jouent des choses, au fond, beaucoup plus essentielles, dont le spectateur a une conscience plus ou moins aiguë, plus ou moins forte.
Et c'est là où on a du mal à savoir si on est dans une œuvre réaliste ou dans une œuvre totalement non réaliste. On sait que par exemple, il se documentait assez précisément sur un certain nombre de choses, ce qui le classerait du côté presque des naturalistes. Et en même temps, il y a énormément d'invraisemblances, de choses qui ne ressemblent pas à la vie dans le cinéma d'Alfred Hitchcock.
Il part de l'idée que pour que la fantaisie puisse se déployer, il faut qu'elle soit fondée sur quelque chose de très précis et auquel le spectateur peut croire. Donc, il y a cette idée qu'il faut quand même que... Puis après, il y a des films qui sont plus ou moins réalistes. Alors, si vous prenez un film que lui considérait comme son meilleur film, L'ombre d'un doute, donc il se passe donc dans la petite ville de Santa Rosa, en Californie, avec le personnage donc de Uncle Charlie, qui s'appelle, donc interprété par Joseph Cotton, vous avez un fond beaucoup plus réaliste que dans Vertigo, où là on part très vite comme dans une histoire complètement invraisemblable, bon, qui est une adaptation bien sûr. Donc il y a des degrés aussi de rapport à la réalité qui sont variés. Mais je pense que pour Hitchcock, la réalité n'est qu'un matériau, et il en a besoin parce qu'il veut que le spectateur voilà croie à ce qu'il lui raconte pour pouvoir au fond, d'une certaine manière, aller vers plus en plus de fantaisie. Enfin, le mot fantaisie étant employé dans un sens très large, mais il ne vise pas la description de la réalité. Moi, je dirais qu'il vise plutôt la vérité que la réalité, si tant est qu'on puisse faire une distinction entre les deux.
La vérité de l'être humain ?
D'une certaine façon, oui. Mais encore une fois, il le dit sans le dire. Il y a ce côté, ce qu'on appelle en anglais, l'understatement, c'est-à-dire quelque chose qui n'est jamais dit clairement, quelque chose qui n'est pas la litote non plus, au sens où c'est... en français, c'est un peu différent. L'understatement, c'est vraiment... avec, en général, un certain humour, on dit les choses sans les dire. On les dit à demi-mot, quelque chose est dit, mais c'est à vous un peu d'interpréter. Vous voyez, il y a quand même cette dimension-là qui est sans doute assez anglaise chez Hitchcock et qui fait que on y est sans y être, si je puis dire, quoi.
Est-ce que vous avez le sentiment que quand il arrivait sur un plateau de tournage, il savait exactement ce qu'il voulait que le spectateur ressente? C'est un peu ce qu'on dit en général à propos d'Hitchcock. Ou est-ce que tout de même, ça ne se passait pas un petit peu différemment?
C'est intéressant cette question, parce que précisément il y a un livre qui s'appelle Hitchcock au travail, qui a été publié il y a maintenant, je pense, une bonne quinzaine d'années, donc de Bill Krohn, aux éditions des Cahiers du cinéma, qui démontre de façon alors assez précise, avec beaucoup de, il a étudié beaucoup de documents, il a eu accès à des témoignages, que c'était un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que le mythe par exemple du storyboard, qui est très fort chez Hitchcock et qui est réel, hein, je veux dire, en effet, il travaillait sur des storyboards, le plus connu étant sans doute celui de la scène de la douche dans Psychose, qui est évidemment un moment très un moment d'extase presque visuel et sonore d'ailleurs, il faut pas l'oublier,
et musical.
Et musical, oui, faut jamais oublier cette dimension chez Hitchcock, parce qu'il en joue quand même beaucoup et c'est pas une légende bien sûr, ce apparemment. Donc ce que je conclus de ce livre, c'est que d'une part, c'est pas Hitchcock qui dessinait lui-même ses storyboards, il était plutôt un piètre dessinateur alors qu'il avait une formation quand même en ce domaine.
Apparemment, il faisait quand même des petits dessins.
Oui, il faisait des petits dessins, mais les vrais storyboards dont il a fait lui-même la publicité, parce qu'il y a des photos, on le voit presque devant ses propres storyboards. En réalité, c'est pas du tout lui qui les faisait, c'était des vrais dessinateurs, quasiment des artistes. Donc, ça lui servait sans doute à quelque chose, et c'était réellement très important sur certaines séquences. Mais il y avait un petit peu plus de mou dans la ficelle, si je puis dire, ou de jeu, en tout cas, avec la réalité du tournage. C'est-à-dire que l'idée, en effet, que lui-même, parce qu'il faut jamais oublier qu'Hitchcock était très fort pour lui-même construire sa propre image de cinéaste. Donc il a lui-même beaucoup fait pour ça. C'est-à-dire l'idée de au fond de la maîtrise totale. C'est-à-dire c'est ça l'idée. L'idée c'est que c'est un cinéaste qui maîtrise tout de A à Z. C'est ce que Godard appelle dans un des chapitres de son histoire du cinéma le contrôle de l'univers. C'est ça. C'est comme ça qu'il voit Hitchcock. C'est-à-dire quelqu'un qui a la volonté de contrôler l'univers. Et je trouve c'est une très belle image parce que ça correspond bien. Dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que par exemple sur Les Oiseaux, qui est sans doute le film où il a été le plus déstabilisé, d'abord le scénario ne lui convenait pas, scénario de Evan Hunter, bon, qui est un écrivain de polar assez connu, donc il a dû il est parti sur le tournage avec un scénario qui au fond était troué, qui n'était pas abouti, qu'il a retouché pendant le tournage, alors que lui-même n'était pas a priori scénariste. Ensuite il y a le lien avec Tippi Hedren qui quand même créer un trouble évident dans la séduction qu'elle exerce sur lui, un des changements les plus évidents, c'est ce que raconte Tippi Hedren elle-même, c'est qu'elle a été prévenue le jour même qu'elle allait devoir tourner la scène la plus violente du film, c'est-à-dire la scène où elle est attaquée dans un grenier par des oiseaux. Elle a appris le jour même qu'elle allait être attaquée par des vrais oiseaux et non pas par des oiseaux mécaniques, sous le prétexte que les oiseaux mécaniques marchaient pas. Bon, il paraît qu'Hitchcock, c'est ce qu'elle raconte, est resté dans son bureau jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on tourne vraiment au dernier moment, parce que voilà. Donc ça, c'est un film où probablement il a perdu, il le dit lui-même d'ailleurs dans l'entretien avec Truffaut, il a perdu pour une part le contrôle de son film.
Et en même temps, c'est un de ceux qu'il préfère, je crois, aussi, Les Oiseaux.
Ah, c'est un film fascinant, enfin totalement fascinant. D'ailleurs, c'est un peu une parenthèse, c'est pas une parenthèse, c'est que cette période Hitchcock, qui est la plus fascinante sans doute, c'est-à-dire la période où il enchaîne Vertigo, La mort aux trousses, Psychose et Les Oiseaux, il invente quand même à chaque fois quelque chose de complètement neuf qui va avoir une influence sur le reste du cinéma, sur la suite du cinéma. C'est-à-dire, pour Vertigo, c'est, on va dire, le thriller psychanalytique qui va avoir beaucoup de successeurs.
Comme Eyes Wide Shut, par exemple, de Kubrick.
Par exemple.
Dont vous êtes venu nous parler, voilà, il y a quelques semaines.
La mort aux trousses, on pourrait dire qu'il invente le cinéma d'action et qu'il préfigure James Bond et le cinéma d'action qui va arriver. Psychose, c'est évident, c'est ce qu'on appelle le slasher, c'est-à-dire Halloween, les films de serial killer et tout ça. Et Les Oiseaux, peut-être le premier grand film écologique de l'histoire du cinéma, ça se discute. Et en tout cas, le premier grand film catastrophe. Donc il invente à chaque fois une nouvelle forme de cinéma qui va se poursuivre ensuite.
Et Fenêtre sur cour, est-ce qu'il invente quelque chose?
Bah, Fenêtre sur cour, c'est le film idéal pour Hitchcock, parce que là, il est dans l'idée, on va dire que il est dans la double, enfin, son sujet, c'est à la fois la maîtrise et l'impuissance, puisqu'à la fois, il y a ce décor qu'il a fait entièrement construire et qui s'inspire de la réalité, parce que là aussi, il envoie des gens pour photographier des cours intérieurs à différentes heures de la journée, pour que sa reconstitution soit la plus fidèle possible. Et il y a ce personnage de James Stewart qui est à la fois un voyeur et un impuissant, enfin qui est évidemment le substitut à la fois du metteur en scène et du spectateur. Donc on est vraiment, je ne sais pas s'il invente quelque chose, mais en tout cas c'est presque le film parfait pour lui.
Vous pouviez vous voir en ce moment, Jeff.
Qu'est-ce qui vous prend?
Regarder par la fenêtre pour tuer le temps est distrayant, mais le faire comme vous le faites avec des jumelles, Vous forger des idées malsaines à propos de tout ce que vous voyez est insensé.
Croyez-vous que je considère cela comme une récréation?
J'ignore comment vous considérez cela. Mais si vous ne cessez pas, je m'en vais.
Mais
qu'est-ce que vous cherchez?
Je veux découvrir ce qui s'est passé avec la femme de cet individu, c'est tout. Est-ce que ça doit me faire prendre pour un maniaque?
Qu'est-ce qui vous fait croire que quelque chose s'est passé avec
De nombreux indices, c'est une invalide, elle demande des soins constants. Et ni son mari, ni personne d'autre n'est venu la voir aujourd'hui. Pourquoi?
Elle est peut-être morte, qui sait?
Mais où est le docteur? Où est le cercueil?
Elle a pu prendre un soporifique. Il est là maintenant. Il n'y a rien à voir.
S'il y a quelque chose, j'ai tout observé de cette fenêtre. J'ai été le témoin de leurs fréquentes querelles, des mystérieux voyages nocturnes, la scie, le couteau, la corde. Et maintenant, depuis la nuit dernière, nul signe de vie de la femme. Alors dites-moi ce qu'elle fait.
Mais
où elle se trouve? Où est-elle?
Peut-être va-t-il quitter sa femme. Je n'en sais rien et je m'en fiche. Beaucoup de gens ont des scies, des couteaux et des cordes et s'en servent chez eux.
Mais vous n'allez
et
pas
beaucoup
me
d'hommes
dire...
ne parlent pas à leur femme de toute la journée. Les femmes criaillent et leurs maris voudraient en être débarrassés. Mais très, très peu en arrivent à commettre un meurtre, si c'est cela que vous pensez.
Malgré vous, vous êtes obligé d'employer ce mot-là.
Un extrait donc de Fenêtres sur cour, ce film dans lequel le personnage principal, qui est cloué sur une chaise roulante à la suite d'une fracture de la jambe, passe ses journées à regarder les voisins par la fenêtre et s'aperçoit que la femme de l'un de ses voisins d'en face a disparu. Il se demande aussitôt si son mari ne l'a pas tuée. C'est un film sur quoi? Sur la paranoïa, mais aussi sur le fait de voir et d'être vu. Un film sur le cinéma. Il y a un nombre incalculable d'interprétations de ce film, Thierry Jousse.
Il y a longtemps, je suivais des cours de cinéma et je me souviens que Jean Narboni, qui est un critique aussi, qui a écrit des livres, dont je suivais les cours, disait c'est un film sur la pensée qui voyage. Et au fond, c'est-à-dire quelqu'un dont la pensée crée d'une certaine manière presque ce qu'il est en train de voir. En tout cas, c'est un film sur l'interprétation, c'est-à-dire à partir de ce qu'il voit, qui est très parcellaire. James Stewart élabore toute une théorie, en compagnie d'ailleurs en effet de Grace Kelly et aussi de la femme qui...
L'infirmière.
L'infirmière, voilà, qui s'occupe de lui. Donc à trois, ils inventent un peu l'histoire qu'ils sont en train dont ils ne connaissent que des morceaux. Donc je ne sais pas... Je trouve que c'est en tout cas évidemment un film sur le cinéma parce que c'est quand même l'écran. Enfin, on est sur quelqu'un qui regarde quelque chose sur un écran. En plus, les cadres, enfin le cadre dans le cadre, les fenêtres, il y en a plusieurs. Mais on pourrait dire que c'est aussi un film sur la télévision qui est en train de naître, puisque au fond, il y a comme plusieurs chaînes de télé pendant un temps, en tout cas, qui se font concurrence. Ils ne se focalisent pas tout de suite sur la fenêtre principale, qui va être l'objet de leur projection et de leur désir. Il passe par d'autres. Donc voilà, tout ça, c'est un peu le cadre. J'ai le sentiment que c'est un film sur, en tout cas, sur la projection.
Ferme tes yeux et vois, avait écrit Alfred Hitchcock dans un article. C'est ça, finalement, Fenêtre sur cour. C'est filmer l'intérieur de son cerveau ou l'intérieur du cerveau de Jeff, c'est-à-dire sa subjectivité, son imagination à partir de données très parcellaires. C'est donc parler de la fiction aussi.
Absolument, mais la fiction à travers aussi la question de l'impuissance. Là aussi, on peut le
plus bouger. C'est un photographe. Voilà,
c'est quand même très important
dans sa chambre.
C'est quand même quelqu'un qui dont le métier est de voir et de regarder, en tout cas, c'est-à-dire et de projeter quelque chose puisqu'il est photographe et qui là ne peut plus rien faire puisqu'il est cloué sur son fauteuil avec un membre en moins. Donc je dis rien. Mais
et une femme dont il aimerait bien se débarrasser.
Oui, alors avec lequel il a des relations extrêmement valente, mais c'est plutôt elle qui est effectivement active, puisque de fait, lui, il n'a pas beaucoup la possibilité. Mais en tout cas, il y a l'idée quand même que cette projection ne peut se construire que par à travers cette forme d'impuissance. Il a inventé, je pense, une figure du cinéma moderne à travers ce personnage, mais à travers d'autres, parce que au fond, c'est la même chose dans Vertigo. Il y a une forme d'impuissance qui s'exprime à travers dans le personnage de James Stewart. Il a inventé ce qu'on peut appeler le spectateur impuissant, qui sera comme une figure que De Palma va reprendre et amplifié très très largement, mais qu'on retrouve au fond dans tout un pan du cinéma moderne américain et qui est extrêmement au fond important, je dirais, parce que il est presque la matière de la modernité du cinéma américain.
Il y a aussi du voyeurisme, de la perversité, voire un brin de pornographie à observer comme ça chez les autres, observer dans le noir, parce qu'il y a des moments aussi où il est vu, on se rend compte qu'il est en train d'observer.
Bah, c'est, je crois qu'Hitchcock disait lui-même que c'était un film sur la, je sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui l'a dit, un film sur la vie moderne, enfin la vie contemporaine, urbaine. En effet, la question. C'est pour ça d'ailleurs que le film garde une grande force. D'abord parce que visuellement il est très très impressionnant d'une certaine manière, et puis il a la, sa matière scénaristique, enfin ce dispositif plutôt, il continue à être très très opérant, parce que au fond aujourd'hui enfin cette question du voisinage, cette question du regard du voisin, elle est toujours là, enfin dans les villes et de plus en plus. Et j'ai constaté, pour avoir fait l'expérience pour montrer ce film à des enfants, que c'est en général le film que les enfants ou les adolescents préfèrent souvent, Hitchcock.
Il y a un côté maison de poupée presque.
Oui, il y a quelque chose d'évident, il y a vraiment une forme de jouissance à regarder visuellement aussi ce qui se passe dans ce film, quoi. Je trouve effectivement le côté maison de poupée, enfin tout ça, ça fonctionne extrêmement bien. Moi, c'est pas forcément le film de Hitchcock que je préfère à titre personnel, mais en tout cas, il a une sorte de, c'est la quintessence au fond d'une certaine manière d'Hitchcock qui s'exprime à travers ce film.
You know,
vous savez,
there's always been this dispute between.
Il y a toujours eu ce conflit entre le suspense et la surprise.
There might be a bomb under this table.
Il peut y avoir une bombe sous cette table.
And we are having a very innocuous conversation.
Et nous avons une conversation très anodine.
But suddenly, boom, this thing goes up.
Mais tout d'un coup,
the audience
boom,
are shocked.
Explosion. L'audience est choquée.
It has been very, very dull. The scene has been very dull.
La scène est très et manque totalement d'intérêt.
The shock will last 15 seconds.
Le choc durera 15 secondes.
And it will ease off
et ensuite
a minute,
ça s'atténuera.
2 minutes and that's that.
2 minutes et puis c'est fini.
Now we go to the other version.
Maintenant nous allons à l'autre version.
The bomb is under the table,
la bombe
and the
est sur
audience
la table.
Are shown that it is there.
Et l'audience sait que la bombe est là.
At the beginning.
Au début, que ça va détonner à une heure.
There's the clock.
Il y a la montre.
And it's quarter to one.
Il est 1:15.
The conversation, which was so dull,
la conversation qui était tellement anodine, maintenant devient très intéressante. Mm.
Because the audience are saying,
parce que l'audience se dit,
don't talk such frivolous things.
Ne vous racontez pas des choses tellement banales.
There's a bomb under the
table. Il y a une bombe en dessous de la table.
Look, it's going off at
et regardez, ça va partir à une heure.
This we play instead of 15 seconds of surprise.
Au lieu
we can have 15 minutes of suspense.
15 minutes de suspense.
La compagnie des œuvres. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Le maître du suspense, Thierry Jousse. Mais de quel suspense parle-t-on exactement? Et pourquoi serait-il seulement maître du suspense? Est-ce qu'il n'est pas un maître de manière générale? Est-ce qu'il n'y a pas des malentendus autour de cette notion?
Bah, c'est la notion qu'il a fait connaître, on va dire. C'est là-dessus que sa publicité s'est construite.
Mais il invente vraiment quelque chose avec ça? Une recette ou pas?
Avant, je ne sais pas, ça serait difficile de le savoir, parce que probablement on y trouve, peut-être même chez Griffith, on trouve des phénomènes de suspense. Donc bon, je suis pas sûr qu'il l'invente, mais disons, il le systématise, il le publicitarise, si on peut oser ce néologisme. Donc voilà, il en fait en tout cas la matière de son cinéma et de ce qu'il manifeste sur son cinéma. Non, c'est intéressant quand même le suspense, parce que c'est la manipulation du temps, au fond, c'est-à-dire c'est la dilatation du temps, accélération, ralentissement, c'est un jeu sur le temps, et le cinéma pour moi, en tout cas, et je pense qu'Hitchcock là-dessus serait sans doute d'accord, enfin en tout cas plus je suis d'accord avec Hitchcock, je pense c'est avant tout du temps, c'est la question du temps qui est centrale c'est ce que disait tout à l'heure Truffaut dans le document que vous avez passé sur le train, enfin l'idée du train qui avance dans la nuit, donc je pense que cette question du temps, elle est centrale chez Hitchcock et la façon dont il joue avec le curseur est essentielle.
Mais est-ce que le suspense tel que on l'envisage aujourd'hui au cinéma était exactement le même suspense qu'il y a 50 ans? Je crois que c'est Jean Doucet qui dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus religieux dans le suspense tel que Hitchcock le pratique. Et c'est pas simplement un truc pour tenir le spectateur en haleine comme ça l'est devenu.
Oui, c'est peut-être une... Je ne sais pas si on peut dire une expérience spirituelle, mais enfin en tout cas quelque chose qui a à voir avec une dimension plus existentielle, qui renvoie encore une fois à ces questions de peur et qui sont qui font appel sans doute à des pulsions assez enfantines, assez enfouies. Donc oui, on n'est jamais. Bah c'est toujours ça. Encore une fois, on revient toujours là-dessus sur Hitchcock, c'est-à-dire que tout est lié d'une certaine manière. C'est-à-dire que le niveau entre guillemets manifeste et du divertissement renvoie très rapidement à quelque chose de plus profond, de plus actif,
de plus freudien
sans doute. Alors le rapport que Hitchcock entretenait avec Freud est assez ténu, assez léger. Bon, il a fait un film que lui-même ne considère pas comme son meilleur, qui est La Maison du Docteur Edwards, dans lequel l'action se situe en partie dans un hôpital psychiatrique. Il est question de théorie psychanalytique. Bien évidemment, c'est très vulgarisé, simplifié, et ça en vient surtout une matière de fiction. Moi, je me rappelle quand j'ai vu le film pour la première fois, on disait ah oui, non, mais c'est pas possible, c'est un film impossible parce que c'est tellement caricatural sur la psychanalyse. Certes, mais bon, au fond, il le sait très bien, Hitchcock, il joue avec ça, et c'est la matière de la fiction qui l'intéresse encore une fois. Au fond, pour lui, d'une certaine manière, Freud, c'est de la poésie, quoi. On pourrait dire ça.
D'ailleurs. La psychose, c'est de la poésie alors? Parce que psychose, c'est quand même bien freudien.
C'est presque trop évidemment freudien, même, on pourrait dire. Non, mais bien sûr, tout ça est là, évidemment. Après, est-ce que c'est ça qui fait la force du cinéma d'Hitchcock d'être freudien, au fond? Je suis pas sûr, parce que d'abord, moi, personnellement, mais je crois que je suis pas le seul, ce que je trouve fascinant dans Psychose, bon, c'est moins le personnage de Anthony Perkins, même si, bon, évidemment, il participe bien sûr de là, c'est plutôt celui de Janet Leigh. Enfin, c'est ce que fait Hitchcock avec Janet Leigh, moi, que je trouve le plus fascinant dans le film, c'est-à-dire...
Donc, qui joue Janet Leigh?
Alors, Janet Leigh qui joue, donc, le personnage dont j'ai oublié le nom dans le film, mais enfin, qui va se faire assassiner, bon, on va voir, comme
la
on dit,
aussi dans la baignoire.
Voilà, on va révéler un poteau rose qui est bien connu, quand même. Bon, voilà, c'est elle qui se fait assassiner on va pas dire qui, pour garder quand même un peu de suspense malgré tout, mais c'est surtout un personnage. Alors il y a quand même un acte très étrange dans ce film, c'est de faire disparaître l'héroïne du film au bout d'une demi-heure, 35 minutes, et curieusement
il y a deux films en un.
Oui, bah je ne sais pas, mais en tout cas il y a l'idée qu'un personnage disparaît et vous regardez, c'est la même chose, que c'est au même moment du film, dans La Ventura d'Antonioni, la même année ou presque, où les deux films sont sortis en 60, vous avez aussi le personnage qui disparaît, enfin lui disparaît plus tôt je crois, mais en tout cas on est encore à sa recherche. Donc c'est troublant, ça veut dire qu'on est en train d'inventer là aussi quelque chose d'un récit moderne troué, où il manque une pièce manquante. Et ce qu'il y a de plus fascinant pour moi dans Psychose, c'est pas tant le meurtre, c'est ce qui précède, c'est-à-dire tout le moment où ce personnage qui a volé de l'argent, qui fuit, qui est traversé par une dépulsion de peur très forte, et là, du coup, auquel le spectateur peut vraiment s'identifier, beaucoup plus qu'à Anthony Perkins, c'est tout ce moment où il se passe rien, au fond, où elle roule avec la musique de Bernard Herrmann, le soleil, puis la pluie, ce truc où on pressent qu'il va arriver quelque chose, bah là, on revient à cette question du suspense, finalement, c'est-à-dire, c'est dans le suspens, presque, dans l'avant, que je trouve la fascination du film est la plus forte, pour
et justement,
moi.
Justement, suspense est renouvelé par le fait qu'on a l'impression de la fin du film alors qu'on en est quasiment au début et on se demande mais qu'est-ce qui va bien pouvoir arriver encore.
Cela dit, c'est la question du film, c'est comment on se remet d'un tel événement et d'une telle disparition, c'est-à-dire comment on se remet de la scène de la douche, parce que c'est quand même pas évident. Vous avez quand même cette première demi-heure qui fait monter, comme ça, voilà, les choses en puissance peu à peu, qui vous prend dans un pressentiment de l'horreur, du pire. Le pire arrive, et qu'est-ce qu'on fait derrière? C'est quand même assez compliqué pour un cinéaste, et ça, je trouve ça fascinant. Rustle tea now, now, now.
With every stroke she shed a tear. Ristlety, rustlety, hey Johnny, dustlety, resting quality, ristlety, rustlety, now, now, now. Run her home by the light of the moon.
Les enfants qui chantent dans l'insouciance juste avant de se faire attaquer par les oiseaux. Donc dans le film Les Oiseaux, d'où vient là le suspense? Est-ce qu'il vient du fait que les oiseaux sont des oiseaux très communs, ce sont pas des oiseaux du tout extraordinaires, ce sont des mouettes notamment qu'on croise un petit peu partout, et du coup l'étrangeté de ces attaques d'oiseaux sur les gens de Bodega Bay, cet endroit près de San Francisco, c'est de là que vient le suspense hitchcockien, Thierry Jousse, dans ce film?
C'est un suspense on pourrait dire presque métaphysique du coup là, dans ce film là c'est probablement là où ça va le plus loin. Moi j'entends aussi suspense dans le sens suspens presque dans ce film, parce que c'est aussi la suspension du sens, c'est-à-dire qu'au fond il n'y a pas d'explication à cette attaque d'oiseaux, il n'y en a aucune jusqu'à la fin. On ne sait pas, même la fin est assez elle-même suspendue pour regarder ce...
Elle a été modifiée justement cette
oui,
fin.
Oui, oui, absolument. Mais telle quelle, en tout cas, il y a quelque chose qui reste en suspens, donc c'est le moment de le dire. Donc tout le film est sur le mode du suspens, ou suspense. Et de toute façon, c'est un drôle de film parce que tout le début du film, on démarre sur une apparente fausse piste. Est-ce que c'est une fausse piste d'ailleurs, c'est une question qui est autour de ce jeu de séduction entre une héritière, une riche héritière qui est jouée donc par Tippi Hedren, et un type qui habite à Bodega Bay et qui est sous l'influence de sa mère
encore une fois
donc est joué par un acteur qui n'a pas laissé une trace si grande dans l'histoire du cinéma, qui s'appelle Rod Taylor. Bon, il y a donc cette espèce de marivaudage mondain assez curieux dans des décors, parce que il y a une chose qu'on n'a pas peut-être pas encore souligné non plus et qui est, moi, je trouve fondamental, c'est la splendeur visuelle des films d'Hitchcock. Ça me frappe à chaque revision des films d'Hitchcock. Et il faut souligner, d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, l'importance de son chef opérateur qui a travaillé avec lui depuis, je crois, La Loi du Silence jusqu'à Marnie, qui s'appelle Robert Burks, et qui a fait presque donc tous ses films en couleur. Il avait commencé un peu avant, mais qui est un très grand chef opérateur et qui, c'est un mélange entre la direction artistique, la qualité photographique de l'image, et puis évidemment le sens qu'en fait Hitchcock dans le montage, dans le filmage, donc c'est tout ça. Mais visuellement, les films de Hitchcock sont souvent éblouissants, et en particulier Les Oiseaux. Donc il y a tout un pan du film où il se passe pas grand chose, et d'ailleurs Hitchcock le regrettait un peu, je crois. Il trouvait que c'était trop long, il aime pas tellement.
Elle
quand
est assez
c'est
drôle
trop long.
Quand même cette première partie où il s'agit justement d'un jeu autour de l'achat d'oiseaux en cage. Il y a quand même et puis ces oiseaux, alors je ne révèle rien, mais enfin qui reviennent aussi à la fin, ces oiseaux en cage, malgré le fait que l'oiseau est devenu l'ennemi des personnages.
Mais oui, c'est vrai, mais on bascule quand même, pas assez vite, mais au bout d'un moment, dans quelque chose qui devient, donc ce que j'appellerais un film catastrophe quand même avant la lettre, parce qu'il s'agit quand même d'un imaginaire de la catastrophe, c'est d'où l'aspect quand même catastrophe écologique, potentiellement, si on pousse
alors
un
ça,
peu...
C'est une lecture qu'on a peut-être aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Mais qui est présente un petit peu quand même dans le film.
En tout cas, il y a quelques... C'est parce qu'on a fait mal à la nature, ou en tout cas aux oiseaux qui se vengent. C'est dit de façon quasi explicite dans le film. Donc quand même, enfin en tout cas, c'est une des interprétations possibles, et on peut y croire d'une certaine manière dans la dimension de fable qu'a le film. Et donc on bascule finalement d'un film d'un marivaudage assez léger, dont on sent quand même qui s'alourdit peu à peu à travers le personnage de l'ex de Rod Taylor, qui est institutrice. Bon, il y a ça se charge un peu avec la mer. Bon, peu à peu on sent que le film se leste peu à peu de dimensions un peu plus lourdes, mais tout ça avec les oiseaux qui arrivent progressivement dans l'action pour aboutir à un cauchemar absolu, quoi. C'est-à-dire à un moment où il y a des vrais, alors du coup des scènes de cauchemar et restent très impressionnantes, y compris dans l'idée qu'aujourd'hui les effets spéciaux ont évidemment évidemment considérablement évolué. Il n'empêche, les séquences d'attaque des oiseaux, je trouve, restent extrêmement puissantes.
Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur les effets spéciaux de ce film? Parce que en effet, il y a plusieurs techniques qui ont été utilisées pour faire en sorte qu'il y ait énormément d'oiseaux qui attaquent comme ça à la fois les enfants et puis un peu tout le monde à Bodega Bay. Est-ce que c'est un film qui techniquement est très impressionnant pour l'époque, par exemple?
Je pense que pour l'époque, oui, puisque d'abord c'est le type de film qu'on faisait pas à l'époque, tout simplement. Donc le mélange, cette scène donc que j'évoquais tout à l'heure à propos de Tippi Hedren, qui est terrorisante, qui est probablement la scène la plus terrorisante du film, c'est-à-dire quand elle est attaquée par des oiseaux dans ce grenier où elle s'est réfugiée, qui se situe vraiment dans la dernière partie du film.
Et aussi la découverte macabre quand même du fermier,
absolument,
dont les yeux ont été tout à fait percés par les becs des oiseaux.
Et cette scène avec les enfants, donc on entendait un extrait qui est très fascinant aussi, parce que on a le sentiment que c'est le chant des enfants qui appelle les oiseaux, ce qui est aussi très, très, je trouve, une très belle idée qui est qui n'est pas formulée de façon aussi directe, mais enfin qu'on peut imaginer, en tout cas en voyant la scène. J'ai oublié votre question initiale par mes
questions. C'était sur les effets spéciaux.
Oui, les effets spéciaux. Moi je trouve que il y a des moments où comme j'utilisais encore, il était peut-être le dernier cinéaste à utiliser la transparence, parfois Hitchcock, même dans Marnie, vous voyez des transparences très étranges, une scène de cheval comme ça où elle tombe de cheval avec des transparences.
Donc la transparence, c'est quoi? C'est simplement mettre des transparences
devant
la caméra.
C'est faire jouer les acteurs derrière derrière des images en mouvement, mais qui ne font pas partie du même plan, si je puis dire. Enfin, je sais pas si je me fais très bien comprendre, oui. Mais donc on de temps en temps on sent un peu ça dans les oiseaux, dans certaines attaques. Je pense qu'il a pas mal mélangé les oiseaux mécaniques et les vrais oiseaux, donc je trouve que, je ne dirais pas que c'est époustouflant aujourd'hui, parce que ça aurait plus de sens, mais ça reste très très tangible. En revanche, ce que je trouve assez époustouflant, c'est le travail. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'effets spéciaux, c'est le travail sonore qui a été fait en particulier par un musicien, quelqu'un qui était spécialiste d'électronique, qui s'appelle Oscar Sala, sous la direction de Bernard Herrmann, qui n'intervient pas.
Le grand compositeur, voilà, qui a beaucoup travaillé avec Hitchcock.
Absolument, pendant cette période-là, de Mais qui a tué Harry jusqu'à Marnie, et qui a superviser le travail sonore, puisqu'il n'y a aucune musique originale par ailleurs dans le film. Et ça, je trouve que la manière dont les oiseaux, le son des oiseaux se met en scène comme à la fois son réaliste et son fantastique et son électronique, son réaliste et son électronique, bon, il y a quelque chose, je trouve, d'assez fascinant. C'est presque la dimension du film qui est la plus moderne pour moi, d'une certaine façon, aujourd'hui, en tout cas techniquement.
Il était obsessionnel avec le son, la musique, comme il l'était avec tout ce qui concernait ses films. Pour ça, il est obligé de le déléguer quand même en partie.
Certainement. Ce que je sais sur la musique, vous en parlerez sans doute davantage jeudi. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que Herrmann était aussi un obsessionnel. Donc c'est toujours la rencontre de deux obsessionnels qui produit quelque chose de très fort. Il déléguait beaucoup quand même sur la musique, puisque il donnait quelques instructions assez visiblement pas très très développées à Herrmann. Et après, il laissait Herrmann faire. Et je pense qu'il savait qu'Herrmann traduisait d'une certaine manière les émotions les plus profondes de son film, et c'est pour ça qu'il avait une confiance. Alors, il a eu confiance jusqu'à ce que cette confiance se rompe, mais en tout cas quand il a eu confiance en lui, il y a eu une osmose telle que ça a été, je trouve, une des plus grandes collaborations entre un musicien et un compositeur. Et juste pour terminer sur le son, il était quand même un expérimentateur, parce que très tôt dans un de ses premiers films qui s'appelle Blackmail, donc Chantage, le premier film sonore qu'il ait fait en 29, il expérimente déjà certains aspects du son au cinéma très très tôt, donc on sent bien.
Pourtant, le muet, c'était quelque chose auquel il tenait beaucoup.
Oui, mais le son l'intéresse quand même assez tôt, et finalement il joue pas mal, je trouve, avec le son dans ses films.
Sometimes you need a look to convey something, or to look at something and react.
Pour regarder quelque chose et pour avoir une réaction.
I had a conflict with Clift. I said, Monty, I want you to look up at the hotel.
Je veux que tu regardes également l'hôtel.
So he said to me,
alors il m'a dit,
I don't know whether I would look up to the hotel.
Je ne sais pas si je regarderais moi vers l'hôtel.
I said, why not? He said, I may be occupied by the people below.
Parce que je serais préoccupé des gens qui sont là en bas.
I said, I want you to look up to the hotel windows.
Je veux que tu regardes en haut vers les fenêtres de l'hôtel.
And please do so. Now, I was telling the audience, across the street is the hotel.
En face, il y a l'hôtel.
So an actor is going to try and interfere with me, organizing my geography. That's why all actors are cattle.
C'est pourquoi je dis que tous les acteurs sont du bétail.
non, c'est pas aux acteurs de dire aux réalisateurs ce qu'ils doivent faire. On a dit qu'ils n'aimaient pas les acteurs, tout simplement. Certains peut-être être trop maigres pour lui. Ils se sentaient mal à l'aise à leur côté. Comment est-ce que vous voyez les choses, Thierry Jousse?
Je suis pas sûr qu'il les aimait pas, il en avait peut-être peur parfois, ça c'est possible. Il se protégeait beaucoup Hitchcock, en tout cas c'est la réputation qu'il avait.
Avec son armure de graisse, disait-il.
Notamment, mais aussi en travaillant en studio beaucoup, pas toujours d'ailleurs, mais enfin assez souvent. Donc en faisant construire des décors dans lesquels il avait aussi la maîtrise, là, encore une fois là, on retrouve le contrôle de l'univers. Mais
avec même s'il a quand même tourné en extérieur,
oui,
ça
oui,
aussi,
oui, donc plus, plus qu'on ne le croit, notamment dans l'ombre d'un doute, donc assez tôt en 43, donc anticipant même des films qui ont été tournés plus largement en extérieur après-guerre. Les acteurs, bah après, ça dépend vraiment des acteurs. Je pense qu'il a des acteurs avec lesquels il se sent en affinité. Évidemment, Cary Grant, probablement James Stewart, bon, qui sont quand même ces deux acteurs fétiches qui apparaissent dans 4 ou 5 films chacun, bon, qui sont un peu les doubles, à la fois de ses doubles et le double du spectateur idéal. Et on sait qu'il aimait moins certaines actrices, en particulier Kim Novak, pour lequel il y a des mots assez durs, alors que par exemple Truffaut dans l'entretien défend Kim Novak, la sensualité de Kim Novak. On sent qu'il y a eu un problème parce que je pense que Kim Novak voulait trop en faire d'une certaine manière, enfin voulait s'approprier le personnage, et en effet je pense que l'idéal pour Hitchcock, l'idéal de l'acteur pour Hitchcock, c'est celui qui est une marionnette qui se laisse modeler et qui n'exprime rien.
Mais justement, est-ce que ça ne se retrouve pas un petit peu parfois dans les films d'Hitchcock avec une certaine froideur acteurs dont on ne capte pas finalement l'étincelle, parce que tout est quand même très dirigé par Hitchcock lui-même. Il n'y a pas d'improvisation, donc il y en a, mais peut-être pas si souvent que ça, des moments de grâce, de jeu pur dans les films d'Hitchcock.
Oui, on va dire que c'est pas le cinéaste, enfin, comment dire, c'est pas comme Renoir, où on sent bien que le rapport à l'acteur est la dimension essentielle. Là, on voit bien que c'est pas ça la question centrale. Mais pour autant, je dirais par exemple que Joseph Cotten dans L'ombre d'un doute fait une performance très fascinante sur un personnage hyper ambigu qu'il faut quand même incarner, mais qui peut pas être qu'une marionnette. Donc il y a quelque chose. Simplement, je pense que ce qu'Hitchcock n'aime pas, c'est quand les acteurs veulent en rajouter de la signification à leur propre jeu. Il a pas aimé Paul Newman dans Le Rideau déchiré parce qu'il le trouvait trop Actor Studio, trop psychologique. Mais en même temps, quand on revoit le film, ce que j'ai fait il y a pas longtemps, on voit qu'il a gommé tout ça, parce que finalement, Paul Newman n'a jamais été si peu psychologique dans ce film. Du coup, ça donne presque quelque chose d'un peu froid, là en l'occurrence. Ça dépend vraiment, je trouve, des films, parce que les personnages... Enfin, il y a des cas où l'acteur a quand même une part importante, parce que vous voyez Cary Grant dans Soupçon, par exemple, qui là aussi joue un personnage très ambigu, dont on ne sait s'il est coupable ou innocent. Mmh. Et ben, il a la sympathie naturelle qu'on peut avoir pour Cary Grant apporte énormément, hein, puisqu'on se trouve dans la situation de John Fontaine qui fantasme sur lui, et l'ambiguïté qu'arrive à donner avec presque rien. D'ailleurs, Cary Grant, c'est quand même un travail d'acteur qui est assez essentiel.
Et les actrices, les blondes?
Bah, l'actrice qui l'a visiblement le plus inspiré en dehors de Tippi Hedren, donc avec lequel il y a une relation un peu malade, c'est quand même Grace Kelly, mmh. Mais qui est une blonde vraiment presque sans expression au fond.
Et c'est ça la blonde hitchcockienne, c'est la femme sans expression.
C'est sans doute elle qui en est la représentante la plus typique, avec, je dirais aussi, que moi personnellement je préfère d'ailleurs, Eva Marie Saint dans La mort aux trousses, qui joue donc le personnage de Eve Kendall, qui est aussi, alors qui est plus pétillante, je dirais quand même, que mais qui a ce côté double, ce côté froid aussi de la blonde. Mais vous avez une autre actrice qui représente une figure un peu différente, plus habitée, presque plus malade, qui est Ingrid Bergman. Mm-hmm. Où là, alors, par exemple, dans Les Enchaînés, là, il y a un travail d'acteur que je trouve assez extraordinaire. Ce que fait Ingrid Bergman, c'est-à-dire cette espèce de chemin de croix dans laquelle elle est engagée à travers, et avec ce truc de manipulation, donc qui est incarné par Cary Grant, qui quand même la pousse dans les bras d'un nazi pour des raisons évidemment gouvernementales. Bon, tout ça, ça crée quand même un triangle amoureux. Et puis, je trouve que Ingrid Bergman apporte vraiment quelque chose de plus.
Bon, non, il y a quand même le triangle amoureux, Il y a l'amour. Est-ce qu'il y a le bonheur chez Hitchcock? Est-ce qu'il y a des films vraiment heureux? Et puis on terminera par ça, je pense.
Bah, La mort aux trousses, quand même. C'est un film d'une allégresse absolue, quand même. Parce que même le danger qui existe réellement dans le film, le méchant est très réussi, hein, James Mason. Parce que la fameuse adage, plus le méchant est réussi, plus le film est réussi. En effet, ça marche chez Hitchcock. Ouais. Mais c'est un film, quand même, qui procure un bonheur total et qui reste un des films qu'on peut revoir et revoir à satiété. Parce que d'abord, l'intrigue est tellement à la fois complexe et d'une certaine manière fantaisiste, mais en même temps avec une rigueur qu'on s'y perd toujours et qu'on l'oublie au fond, les détails. Et puis il y a une dimension formelle, encore une fois, à laquelle il faut revenir. C'est-à-dire toute la dernière partie du film à travers, avec cette maison construite par Frank Lloyd Wright près du Mont Rushmore. C'est aussi un film sur le paysage américain, parce qu'on traverse les États-Unis aussi à travers, avec Cary Grant, à travers ce film. On part de New York pour arriver sur le Mont Rushmore. Il y a quelque chose, je trouve, il y a une vraie allégresse dans ce film qui se termine d'ailleurs par une scène de happy end sexuelle déguisée qui est à pied de nez à la censure, passage dans le tunnel et voilà le train. Bon, on est évidemment dans une métaphore sexuelle mais dont Hitchcock s'amuse énormément.
On aurait pu parler aussi parfois des paysages heureux de la campagne tels que filmés par Hitchcock à l'automne notamment. Merci
dans
beaucoup.
Dans Mais qui a tué Harry.
Exactement. Merci Thierry Jouz. Je rappelle que vous êtes cinéaste, critique et historien du cinéma. On peut vous retrouver sur France Musique dans l'émission Ciné Tempo. Tout de suite, c'est la chronique.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et la chronique, c'est en compagnie des revues avec aujourd'hui Alexandre Lévy, rédacteur en chef adjoint du magazine Books. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Votre dernier numéro est consacré à la vieillesse. Vieillir, mais comment et jusqu'où, demandez-vous. Vous publiez également dans ce numéro un article sur tout à fait autre chose, sur le livre d'un historien de l'université de Yale, Greg Grundin, consacré à la frontière américaine. Ce livre, qui n'est pas traduit en français, s'intitule « La fin d'un mythe, de la frontière au mur dans l'esprit des Américains, frontière avec un grand F ». Pourquoi avez-vous choisi de nous parler aujourd'hui de cet article en particulier?
Il s'agit d'un article écrit par l'écrivaine américaine Karen Olson et publié par la revue Book Forum de New York. Alors, notre travail à Books consiste justement à repérer, traduire et publier des articles de la presse étrangère sur des livres qui, selon nous, éclairent le monde d'aujourd'hui. Ce livre parle d'un mur entre deux pays. D'un nouveau mur érigé en cette année où nous allons fêter dans quelques jours les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Ce mur qui passe le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique a été ardemment voulu par Donald Trump qui en avait fait une promesse de campagne. Il est censé protéger le pays des migrants, à rendre les États-Unis étanches à la misère venant du sud du continent. Mais ce mur n'est pas que cela. L'historien Greg Grandin y voit, lui, la fin d'un mythe. Pas la fin d'un mythe d'ailleurs, mais la fin du mythe peut-être le plus fondateur de l'identité américaine, le mythe de la frontière, avec un grand F en français, comme vous l'avez souligné. Et c'est une précision importante.
Alors pourquoi justement avec un grand F? Parce qu'en anglais on écrit frontier avec une minuscule.
Oui, en fait en anglais il y a deux mots pour désigner la frontière. La frontière physique, cette ligne de démarcation entre deux états souverains, se dit border. Le mot frontière existe aussi, mais dans la culture américaine il incarne cette idée d'expansion illimitée vers l'ouest, l'idéal d'un monde libre et sans limite. Cette frontière sans cesse repoussée a certainement nourri l'optimisme américain et contribué à forger peut-être le caractère national des Américains. L'un des premiers à réfléchir sur ce lien était le jeune professeur Frederick Turner qui, en 1893 déjà, donnait une conférence sur l'importance de la frontière dans l'histoire américaine. Selon lui, la civilisation américaine n'est pas un dérivé de l'histoire européenne, mais un produit du cru, né justement dans ce territoire en perpétuelle expansion où chacun a sa place et où tout est possible. C'est ainsi que la frontière devient un symbole de liberté incarné par les pionniers de la conquête de l'Ouest. Mais ce que Turner ne dit pas, c'est que cet idéal a aussi une face B, une face beaucoup plus sombre faite de violence et de discrimination. La progression des colons blancs s'accompagne du massacre des populations autochtones. Dans les guerres contre le Mexique, les troupes américaines se livrent à des atrocités terribles. Plus tard, elles remettent ça en Amérique centrale contre les régimes communistes. Selon Grandin, ces violences obéissent à la même logique. La frontière offre aussi la liberté de torturer, de réduire en esclavage et de tuer, parce que la frontière abolit les règles et garantit l'impunité.
Et c'est donc cette facette-là, beaucoup plus sombre, qu'incarnerait le mur de Trump aujourd'hui.
La frontière entre les États-Unis et le Mexique est depuis plusieurs années déjà le théâtre de violences racistes. On y retrouve tous les aspects les plus sombres de la frontière mythique. La déshumanisation de l'autre, dans ce cas de figure, le migrant, et la permissivité violente. Et selon l'auteur, Trump séduit les électeurs justement parce qu'il est capable de leur vendre cette liberté-là, la liberté de dénigrer les migrants en toute impunité. Mais le problème avec la frontière de Trump, c'est qu'elle n'incarne désormais que le mal et plus du tout l'idéal. Le rêve américain s'est brisé. Au propre comme au figuré, contre les blocs de béton érigés le long de la frontière mexicaine. Le mur, c'est un monument au désenchantement, écrit Grandin. Un monument qui nous rappelle que les territoires du possible rétrécissent comme peau de chagrin.
Merci beaucoup Alexandre Lévy, on retrouve tout ça dans les pages du magazine Books. C'était la compagnie des œuvres, Didier Pinot, Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière, Jacques Hubert. Demain, on parle d'Hitchcock philosophe avec Laurent Van Eynde, et puis à noter la rétrospective Hitchcock qui va commencer à la Cinémathèque à Paris à partir du 29 novembre.